Bonjour Victoria.
Bonjour Thierry.
Alors, toujours en bonne santé?
Toujours en bonne santé. C'est pas le jour de la banane, mais c'est le jour d'après la banane, donc on l'a encore. Voilà.
Alors, on n'en a pas mangé des bananes, mais on les avait sur nos visages, puisqu'effectivement, comme vous le savez, comme à l'accoutumée, si on est en bonne santé, c'est qu'on est en live. On est parti pour un nouvel épisode. Je crois que c'est le 18e épisode. C'est de la folie. Ça va à une vitesse.
C'est dingue.
Voilà, votre rendez-vous, votre dose communication, médias, publicité, réflexion sur l'avenir. Ce rendez-vous comme in mag live à 15h. Bien évidemment, vous avez le droit d'interagir. Bien évidemment, vous avez le droit de poser vos questions pendant ce live. On sera très heureux justement de pouvoir y répondre. Et puis, vous avez le droit aussi de partager, de liker et aussi de proposer en replay tout ce qu'on va échanger aujourd'hui, puisqu'effectivement, je suis sûr que ça va intéresser plus d'un, parce qu'aujourd'hui, on a, comme à l'accoutumée, mais de nouveau, un chouette invité, Victoria.
Absolument. On a un agitateur d'idées. Je crois qu'on faut le résumer comme ça. Il a eu toute sa carrière un coup d'avance sur tout. Donc on ne pouvait pas ne pas l'inviter. En plus, on l'adore. Donc c'est Xavier Comtesse. Mon cher Xavier, bonjour.
Bonjour.
Alors je ne sais pas, parmi tout ce que tu as fait dans ta vie, parce que je ne peux même pas les énumérer, quelle est l'étape qui t'a le plus passionné? Enfin, si on devait te résumer, on te résumerait sur quoi? Les Swiss Next, Avenir Suisse, quoi?
C'est un parcours de recherche de la vérité. Mais quelle vérité je recherche? Ce serait, disons, comment on est capable d'innover tout le temps,
Exact.
partout,
Ça,
sans arrêt. Et c'est ça ma passion, c'est l'innovation.
c'est vrai. Ben, ça, on la partage avec toi. Alors, démarrons tout de suite. C'est un mot que tu adores, fractal. Moi, j'aime
Ouais.
aussi parce que c'est un mot qui, fouf, on voit la poussière d'étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Ce coronavirus, c'est un accident? C'était un désastre annoncé? C'est une chance? C'est quoi?
Bon, d'abord, c'est une pandémie que plusieurs avaient supposé qu'elle arrivait, puisqu'en fait, il y en a à peu près tous les 100 ans, une de ces grandes pandémies qui dévastent le monde. Ce n'est pas la première, c'est la 4e ou 5e. On a eu la peste, la malaria, on a eu le sida, on a eu plein
Exact.
de trucs comme ça. Et on est chaque fois pris par surprise, parce que le monde, en fait, efface. Vous voyez, par exemple, il y a eu une grippe pandémique en 1969, juste après 68. Ben figurez-vous, je l'ai vécu sans savoir qu'elle a existé. C'est juste récemment que j'ai
Oui,
appris
moi j'avais
qu'elle
jamais
avait.
entendu parler de ce truc, ouais.
On n'avait jamais entendu parler. Et je l'ai vécu. Mais à l'époque, dans le fond, on s'en foutait. C'était après 68. Il a fait beaucoup de morts, beaucoup plus que finalement le corona en ce moment. Mais on s'en foutait. Et donc, ça dépend vraiment comment l'état du monde est. Et si on est attentif à ces pandémies, et d'autres sont très dévastatrices, la grippe espagnole, c'est monstrueux. Et puis d'autres, celle de 57, celle de 69, pas tellement. Et puis des fois, c'est très local, et puis des fois, c'est global. Voilà. Bon, cette fois-ci, tout le monde s'est excité pour une seule raison. C'est qu'on avait vu ces images terrifiantes des hôpitaux de Wuhan, où les gens mouraient dans les couloirs de l'hôpital. Et ça, tous les gouvernements ont dit ça, on veut pas. Ça, on veut absolument pas. Et en fait, on est organisé depuis ce moment-là contre ce phénomène de ce qu'ils ont appelé la vague, le pic, c'est-à-dire un afflux massif de malades à l'hôpital qu'il faudrait intuber. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'a pas les intubateurs, qu'on n'a pas les ventilateurs, qu'on n'a pas le matériel, qu'on n'a pas les masques, qu'on n'a rien, rien du tout. Le matériel médical pour une
Mais
pandémie
alors, qu'est-ce qui
faisait
nous a fait le
défaut
plus
partout.
peur? C'était le fait qu'on a peur que des gens meurent, parce qu'on l'a pensé avoir vaincu un peu la mort,
Non.
ou c'est le fait de se dire, mon Dieu, on n'est pas prêt?
Alors, c'est plutôt qu'on n'est pas prêt. Et le monde médical a réussi assez habilement à énerver tout le monde et à rendre attentifs les États. Mais au début, certains gouvernements ont résisté. Hein. Rappelez-vous de Johnson, rappelez-vous de Trump. Ils ont résisté le plus longtemps possible contre ces scientifiques du milieu médical qui se sont retrouvés en défaut. Hein. Ils étaient mal organisés et ils n'avaient pas le matériel. Mais tout le monde, hein. Il n'y a pas un seul pays qui a échappé à ça. Donc, et c'était lié au fait que depuis plus de 10 ans, on avait partout dans le monde créer dans le fond moins de lits, on était passé à une médecine qui devait être plus rapide, moins chère, enfin, etc.
Très néolibéral, quoi.
Complètement, complètement. Alors ça, ça fait peur. Alors pourquoi ça fait peur? Parce qu'en fait, la mort dans notre société moderne est de moins en moins tolérée. Ouais. Donc ça, c'est un phénomène qui est lié à notre époque. Et puis, ce phénomène où vraiment les États, les gouvernements ont voulu absolument. Ils ont inventé tout ça. La distance sociale, le masque, c'est assez curieux, mais en 1630, la pandémie de la peste qui ravage l'Europe, 50 millions de morts, le masque a été inventé à ce moment-là. C'est un masque.
Et il avait d'ailleurs une sacrée force en plus.
Comment ?
Il avait
une sacrée forme, hein, ce long bec allongé en noir.
Exactement.
Les médecins se planquaient là derrière parce qu'en fait, la longueur du masque, cette forme de bec d'oiseau, était en fait dédiée au fait de pouvoir respirer parce qu'on y mettait toutes sortes de choses, des clous de girofle, toutes sortes
Exactement.
De senteurs d'herbes, pour pouvoir couvrir l'odeur. Voilà. Vous avez appris quelque chose.
Donc le masque est inventé là, la distance sociale est inventée là, et le confinement est inventé là. Donc il y a des villes qui se confinent complètement et qui interdisent aux pestiférés de rentrer. Donc tout ça, ça a été inventé. Se laver les mains aussi, ça date de ce moment-là. Et donc ils nous rebalancent quatre mesures qui étaient déjà présentes il y a 700 ans. C'est hallucinant, on n'a rien inventé du tout. Et c'est des mesures assez barbares, finalement, parce que c'est pas technologique, mais vraiment...
C'est ça, de bon sens, quoi. Mais
c'est du bon sens, mais c'est surtout de... J'allais dire, à part un vaccin, on ne savait pas quoi faire, du tout. Et donc, on se rabâche sur des vieilles mesures, très vieilles mesures. Au début, vous rappelez, on disait « lavez-vous les mains ». Et puis, on nous disait de se laver les mains avec une substance alcoolique. Qui a fait très rapidement défaut. Après, ils ont dit, oh, ça va de Marseille, ça va très très bien. Mais en fait, c'est un bullshit invraisemblable. Pour une pandémie qui tue très peu.
Oui, mais c'est ça.
Moins que la grippe.
Par contre, cette pandémie, elle va laisser, elle a montré une chose assez extraordinaire, c'est que finalement, à part, en plus du fait qu'on n'était pas prêts, c'est que cette globalisation qu'on nous avait vendue comme la quintessence de l'évolution humaine, finalement, s'est retournée contre nous, vu que tu as un bout de tuyau dans un pays, un autre bout de tuyau dans un autre pays, des vis dans un autre pays, et finalement, on n'a ni masque, ni produit de nettoyage pour les mains, ni intubateur. Donc voilà, donc on a bien compris que la globalisation, si tu veux, c'est un espèce de mécano qui fonctionne par tombeau, mais dès que ça va plus, ça ne fonctionne plus, parce que tout d'un coup, les frontières sont arrivées.
Alors, Victoria, tu as totalement raison. Cette pandémie, maintenant, tirons les leçons. C'est là, c'est été mal géré, on en est là. Maintenant, on ne va pas se plaindre, on laissera faire les avocats, il y en a qui vont attaquer certainement. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais maintenant, on en est. La première chose qu'on peut conclure, c'est effectivement que la globalisation dont tu parles, je vais essayer de faire une nuance entre globalisation et mondialisation. Ces deux termes qu'on utilise souvent l'un pour l'autre. Alors, moi, je les nuance de la manière suivante. Tous les deux désignent, dans le fond, le globe ou le monde, c'est le même objet, mais je dirais que la mondialisation, c'est le fait qu'une entreprise vende sur le marché du monde ses produits ou ses services. Et la globalisation, c'est le fait qu'une entreprise produit sur le monde ses projets, ses produits ou ses services. Donc la globalisation signifie que je me suis étalé sur le monde pour produire. Un iPhone, par exemple, 44 pays sont impliqués dans le processus, les entreprises dans 44 pays différents. Tandis que la mondialisation, par exemple, pour une montre 100% suisse, montre fabriquée à la vallée de Joux, eh bien, cette entreprise est mondiale, dans le monde entier, le même produit, fabriqué à un seul endroit. Ça, c'est la mondialisation et l'autre, c'est la globalisation. Ça nous permet de distinguer. Alors, pourquoi je fais cette distinction? Parce que le coronavirus nous a montré ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, dans la globalisation, dans cette longue chaîne, si un fait défaut, c'était la Chine, tout le système s'arrête. Et donc, on ne peut plus produire des iPhones, on ne peut plus produire même des médicaments en Suisse, puisque les produits de base sont faits en Chine. Et donc, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est infernal. Donc, renaît, et c'est pour ça que le concept de Gluck. Donc, en gros, c'est-à-dire, j'ai une conception globale, mais j'ai une action locale. Alors, par exemple, je prends l'exemple, Swisscom est une entreprise locale. Tous ces appareils, c'est Huawei, c'est Ericsson, etc. Toute la logique, elle est globale. Tous les softwares sont globaux, mais ils agissent sur un territoire localement. Et là, on voit bien ce que c'est global. C'est prendre du globe. Alors, ce qui est sorti donc, pendant cette crise, c'est évidemment les imprimantes 3D, qui tout d'un coup sont parties à toute vitesse, parce qu'elles sont très locales. J'ai un logiciel qui me permet de downloader un produit global, et puis je le produis localement. Mais l'enseignement à distance, c'était la même chose. On a utilisé des logiciels, hein, comme plein.
Mais là, on voit que, enfin, je sais pas si Thierry, tu veux poser une question.
Oui, moi j'en avais une parce que j'aime bien l'exemple des imprimantes 3D. J'aime aussi le fait que cette crise, on parlait hors caméra, que ça fait seulement 2 mois, hein, on va bientôt arriver à 2 mois pour la Suisse. Et déjà, on voit les effets sur la nature, sur la consommation. Alors, je vais pas te demander d'être un teaser de Bonne Aventure ou de lire dans la boule de cristal, mais est-ce qu'à ton avis, comme le dit par exemple le fondateur de Slack, il sera impossible de revenir en arrière, par exemple sur le télétravail. Est-ce qu'à ton avis, on va prendre en considération ce qui a été vécu pour changer nos habitudes? Et je reviens sur l'exemple de tous ces produits qui dépendent de tous ces pays. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va revoir l'industrialisation de tous nos produits de consommation? Est-ce qu'on va en consommer moins? Est-ce qu'on va en fabriquer moins? Est-ce qu'on va revoir les chaînes de fabrication? Peut-être quand même une boule de cristal que je te demande de consulter.
Ouais. Alors, non, en fait, historiquement, toutes ces pandémies ont été suivies par on revient aux affaires comme avant. Toutes, historiquement. Donc, on a toujours refait les mêmes conneries qu'on faisait avant, après, en gros. Ce qui a changé, c'est le mindset, hein, c'est la manière de penser le monde qui a changé chaque fois. Donc la peste, par exemple, a amené une très grande méfiance, d'ailleurs même une chasse aux sorcières. Après, l'Église a pris le pouvoir. Mais par exemple, la malaria et cette pandémie qu'il y a eu sur Londres a permis à la montée de la science, la médecine et la science. Cette fois-ci, pendant la grippe espagnole, c'était les techniciens qui ont pris le dessus. Hein, tout le siècle dernier, ce n'est pas un siècle de la science, c'est un siècle. Technologie. Et puis maintenant, je dirais, il y a 3 trucs qu'on a vu surgir. C'est évidemment une puissance des applications. L'IoT, si vous voulez, hein, le téléphone mobile et ses applications, très très puissantes. L'intelligence artificielle. C'est quand même l'intelligence artificielle qui court après le vaccin et qui court après la pandémie. Et puis la dernière chose, c'est les 3D printing. Hein, donc c'est ça. Ces 3 aspects-là sont là pour toujours. Donc, Internet et les applications, c'est comme tu dis, le télétravail, le téléenseignement et tout ça, sont installés pour toujours. Je dis toujours que le téléenseignement en 10 semaines a fait plus de progrès que lors des 10 dernières années.
Absolument.
Et le télétravail aussi. Voilà. Tout ça a pris un énorme accélérateur. Alors, c'est pour ça que ça ne va pas changer et que tu as raison, Thierry, que ça va changer. L'économie, elle a dû surgir. 3 éléments forts qui vont rester. Et puis d'autres éléments faibles vont disparaître. Je pense que la manière dont on voyage, les grandes croisières dans ces grands bateaux qui aboutissaient à Venise, c'est foutu. Ouais. Qui se remettre dans un enfer pareil? Il y a eu 3 bateaux qui ont été attaqués par la pandémie. C'est des enfers. On va en faire des films de Hollywood, de ça. Mais c'est fini. On a peur de ça.
Hein. Mais c'est vrai, c'est terrible.
Mais c'est pire. Le cinéma, je pense que le cinéma est mort.
Mais est-ce que l'aviation aussi, le fait de voyager comme ça, juste pour un coup et pour un rien?
Mais ça avait déjà commencé avant. Oui, mais l'aviation va en prendre un coup, je suis convaincu. Le tourisme, en général, va en prendre un coup. Et puis, comme tu dis, on ne fera plus ça juste comme ça. Mais des choses plus graves, comme le cinéma. Je pense qu'on ne se remet plus jamais à 8 ans dans une salle.
Alors, dans ce IoT et puis cette intelligence artificielle, et aussi les 3D, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, dans le même temps, on voit un retour de l'État, disons un besoin d'État, et en même temps, on a, avec ces nouvelles technologies, si tu veux, les données privées vont être de moins en moins privées, vu que tout va être connecté, on va être de plus en plus suivi, traqué. Donc comment est-ce que tu vois ces deux concepts coexister dans le futur, qui me semblent un peu antagonistes?
Ben d'abord, c'est l'État qui est chez nous, va mettre en application, comme en Chine, ces logiciels de tracer le coronavirus. C'est l'État. Donc, c'est l'État qui va se substituer, mais comme il l'a toujours fait. L'État, la protection des données est vraie pour les citoyens entre eux ou les entreprises, mais pas pour l'État. L'État, c'est tout.
Toujours,
Partir
mais l'État ne veut pas, ce que je disais dans cet antagonisme, tu as un pouvoir public qui veut garder la donnée pour la sécurité et va pas vouloir le donner à des entreprises privées. Parce que là,
mais l'État n'a pas la donnée pour la sécurité. L'État a la donnée pour contrôler le citoyen, pour ses impôts, pour où il
c'est
habite,
clair, ça c'est vrai. C'est la
pour
fonction
ses
police. Oui,
données
c'est juste.
Police régalienne
une
aussi.
régalienne, tout à fait, exact, oui.
Pour l'éducation, il a toutes les données et il ne la partage pas. Donc, il y a une guerre sur la donnée, pour l'instant gagnée par l'État, très largement. Et puis, ça continuera, ça, de toute façon. Mais je ne pense pas que la donnée est l'enjeu, la donnée, disons, la personnalisation ou la propriété de la donnée est l'enjeu majeur. Parce que les Chinois, qui sont sous contrôle étatique fort depuis plus longtemps que nous, 3000 ans, déjouent très bien le système. Hein. Par exemple, je n'ai pas un seul ami chinois qui n'a pas deux téléphones mobiles, un officiel et un non. Donc on s'amusera à tricher avec l'État, comme on a toujours fait. Bien sûr qu'on trichera. Mais on appellera ça la liberté. Comme par exemple, avoir la liberté d'avoir des longs cheveux.
Je ne suis pas concerné, je ne me sens pas visé. Justement, par rapport tu viens de lâcher le mot tricher, beaucoup se plaisent à dire que cette crise, un pays par pays, va méchamment influencer la bonne marche de notre économie. Il y a des boîtes qui vont couler, qui vont pâtir. Est-ce que, justement, la façon de produire, d'exercer, de travailler, de diriger une boîte va aussi être influencé par ce qui se passe. J'entends par là que, ben voilà, on était beaucoup à attendre de l'aide de l'État, d'être compris. Je parle ici pour les indépendants, pour ces petites structures. On doit rappeler que 97% de notre tissu économique est fait de PME. On a le sentiment que tout ce petit monde ben, va peut-être laisser partir à volo leur boîte et tricher et travailler au noir, retrouver des subterfuges. Est-ce que c'est pas ça la suite logique de tout ça, d'être dans le système D, bon ou mauvais, de l'avenir, par exemple, de notre économie ou de notre industrie?
Oui. Alors écoute, Thierry, si on ne fait rien, tu as raison. Moi, c'est pour ça que j'ai intervenu assez rapidement dans ce débat pour avoir un projet de sortie. Donc, c'est le projet que je défie de l'économie fractale, locale, etc. Je pense qu'on doit donner aux PME, aux entreprises, assez rapidement une solution. La solution, c'est de ne pas dire allez-y au système D. Parce que là, ils vont crever. Hein. Franchement, ils vont crever. Et de dire non, il n'y a pas un horizon à 360 degrés de bon, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas 360 possibilités, il n'y a qu'une possibilité. Et cette possibilité, elle est essentiellement qualifiée par être à la fois global et à la fois local. C'est cet équilibre entre local, que je mets dans le mot local, qu'il faut trouver pour toutes les entreprises. Ça veut dire comprendre les enjeux globaux, ou les plateformes globales, ou les logiciels globaux, ou voilà, les conceptions globales, et puis agir localement. Donc
On
ça veut dire
voit.
qu'on ne perd ni un ni l'autre. Mais il faut vraiment comprendre que c'est dans cet équilibre-là qui vont s'en sortir. Par exemple, pour les agriculteurs, c'est comprendre l'agriculture mondiale et agir localement. Ça ne sert à rien de dire non, non, la robotique agricole ne me concerne pas. Faux. Pour la médecine, c'est pareil. Le gars qui dit ah non, non, mais on va faire tout local, on va faire tout national, ils sont morts, ceux-là. Ils sont morts. Vous voyez?
Oui, alors voilà, là tu as plein de notions. Tu as les nationalistes qui, eux, ne sont plus en phase parce qu'on est dans un monde, malgré tout, international et global.
Exactement, qu'il faut pas lâcher.
Voilà. Mais en même temps, on voit réapparaître quand même des frontières. J'étais étonnée à quelle vitesse les frontières se sont reconstruites partout. Les gens ont fermé les frontières. Tout d'un coup, c'est un rideau, une sécurité. Et est-ce que tu penses que dans cette crainte de... Parce qu'on va être de moins en moins globalisé, mais de plus en plus mondialisé. Est-ce que les frontières ne rejoueront pas un rôle? Et on passe un peu du néolibéralisme à un libéralisme, mais quand même avec cette question de est-ce que la frontière restera? Parce que là, on a besoin d'ouvriers roumains pour venir chercher des asperges. Si on ne les laisse pas passer aujourd'hui, si on n'amène pas des avions, ils ne peuvent pas venir. Les frontières, tu ne peux pas aller du Portugal, tu ne peux pas arriver en Suisse. Non, aujourd'hui, c'est un problème.
Voilà. Les États, dans leur action improvisée, et si tu remontes à 1630, la peste, on avait déjà connu ça. C'est-à-dire, la frontière, c'est une manière simple de cloisonner, de confiner. Donc, tu confines. C'est pour ça que je parlais le fractal. Oui. Le fractal, c'est très intéressant parce que je suis confiné avec ma femme dans mon appartement, mais l'immeuble est confiné, la ville est confinée et le pays est confiné. Et pour chacun, je dois installer alors les 2 mètres de confinement à l'extérieur, que je n'ai pas à l'intérieur, se traduisent par la frontière. Mais une fois que le confinement est fini, les frontières sont ouvertes. C'est que provisoire, ça. Et c'était une manière pour l'État, dans le fond, de dire « Ah, mais si je vous confine, je confine aussi le pays. » Et puis, ça a aidé à la compréhension, parce que l'étranger est toujours la menace pour tout le monde, quoi. Et donc, il joue sur ces critères classiques. Mais c'est trop provisoire. Il ne faut pas installer ça comme quelque chose qui va durer. Tu as raison, l'international est là, pour toujours. Mais c'est la manière dont on va vivre qui va changer. Ça veut dire que ces longues chaînes de production globale, avec 44 intervenants dans la fabrication d'un iPhone, ça c'est fini, pour longtemps.
Donc ils seront fabriqués aux États-Unis?
Non.
Ils seront où? Ils les feront où? Parce que...
ouais, bonne question, parce qu'il y a des nouveaux modèles qui vont bientôt sortir.
Parce que tu as des matériaux rares qui ne sont pas, qui sont en grande partie en Afrique. Donc aujourd'hui, la main-d'œuvre la moins chère était en Chine. On fait comment pour... Voilà, parce que le paradoxe, il est toujours le même.
Pour iPhone, on parle de déplacer les lignes de fabrication en Inde, hein, si jamais. Ça, c'était même initié avant le coronavirus.
Non, moi, je pense que d'un côté, la recherche de fabrication dans la séparation, hein, d'endroits bon marché, ça existera toujours, ça ne va pas disparaître. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais concevoir facilement un téléphone purement suisse, ou j'assemble en Suisse.
D'accord, oui, assemblé en Suisse, ok, d'accord.
Ouais. Alors ça, c'est une chose, il y avait déjà ces téléphones européens comme ça. Mais l'autre chose qui va apparaître, c'est où je peux produire n'importe quelle pièce en Suisse. Alors, 3D printing, ça résout une partie, mais on peut aussi, là j'ai vu qu'une petite entreprise de Zurich propose la création de chips pour les ventilateurs. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir petit à petit une capacité de production. On passe downloader, hein. Je download simplement une chip, je download les machins. Donc, on arrive dans une conception nouvelle. On avait la PAO, mais je vais pouvoir acheter, si vous voulez.
Des brevets, et puis on aura
Et je download. Et puis, je paye des royalties. Et c'est ça qui va changer. Donc, la chaîne, elle est... Parce que, si vous voulez, le truc là, qu'on n'a pas vraiment discuté, mais ces navires marchands qui ont tous ces containers, un navire pollue autant que 1000 voitures. Pardon, 1 million de voitures. 1 million de voitures égale un navire. Parce qu'ils utilisent un pétrole de merde, etc. Et donc, ça, c'est des choses quand même qui ont marqué notre esprit. Cette dépollution en 10 semaines, elle est invraisemblable. Est-ce qu'on va vouloir finir sans arrêt comme ça? Pas si vite. Et donc, je pense que une production industrielle, et si vous regardez dans le Jura, ce qui est maintenant à la mode, ce sont des machines que je peux mettre sur la table. La Micro 5, par exemple, hein, c'est une machine outil classique que je mets sur la table. En plus, elle est intelligente, elle a l'IA dedans. Donc, on va vers une miniaturisation. Demain, je pense que je mets une usine dans un camion.
Donc, c'est le monde va venir encore plus à nous. On a eu les ordinateurs et demain, on va produire sur place. On s'échangera des brevets,
Ce qui sera global, c'est patterns. Les brevets et les savoir-faire. Le marketing, peut-être même le marketing sera global, et puis il y aura un usage local. Et d'ailleurs, dans le marketing, si on regarde bien tous les concepts, ils sont internationaux, ils ne sont pas locaux. Il n'y a rien de local, vraiment.
Oui, sauf qu'on voit quand même aujourd'hui arriver dans le marketing le besoin de mieux connaître le marché, si tu veux.
Oui.
Et on le voit bien, tu as des données, par exemple,
D'accord.
en Allemagne,
Mais c'est...
l'e-commerce ne fonctionne pas aussi bien que peut fonctionner dans d'autres pays, parce qu'après, tu as des traditions, tu as aussi un réseau un maillage de magasins qui est différent. Enfin, il y a
Entièrement d'accord. C'est pour ça que le concept de local va bien.
Ouais, tout à fait.
C'est une
Non, tout à fait.
conception globale et une action locale qui tient compte
Est-ce que tout ça
et...
aura une influence sur nos modes de consommation? Parce que je t'entends dire l'industrie qui arrive sur la table de la cuisine, l'impression 3D, la possibilité de produire, ou en tout cas d'assembler plus facilement et localement. Est-ce que ça va influer le rythme avec lequel on consomme? Est-ce qu'on va baisser? Est-ce qu'on va consommer différemment? Est-ce que ça va rien changer?
Bon, de toute façon, on va consommer différemment. Ça a déjà commencé. Alors, en quantité, je ne sais pas le dire exactement, mais différemment, sûrement. Mais si je reviens, par exemple, sur ces histoires de 3D et puis de la manière dont elles me concernent, il y a des jeunes gens qui m'ont contacté, qui ont lancé dans le fond un réseau mondial de gens qui détiennent des imprimantes 3D pour faire ces fameux masques avec une grande visière. Bon, ben c'est un logiciel qui a été fait d'ailleurs, je crois, en Italie, et puis qui est parti dans le monde entier en open source. Et puis là, il y a des réseaux de jeunes qui se font ça. Et c'est un peu ces jeunes qui étaient sur les questions de l'environnement qui maintenant vont sur la production en se disant, ah, mais non, quand même, il faut être local. Donc, moi, je mesure ça à travers les choses vraiment vues autour de moi. Et donc, ça va se faire. Sur la quantité, c'est très difficile à dire, Thierry, je ne sais pas, moi. Il y aura moins d'argent, hein. Il faut voir une chose, c'est que. Beaucoup de gens perdent leur emploi, les États se sont endettés, ils vont donc augmenter les impôts, l'immobilier va s'effondrer, donc il y aura moins d'argent, donc il y aura moins de consommation. On va plutôt faire de la déflation que de l'inflation, c'est sûr ça.
Ouais, donc on ira vers des choses. Donc l'environnement, quelle place aura l'environnement? Comme te le disais avant, je trouve très étonnant que, alors qu'on est en train d'atteindre les objectifs de moins de 30% de pollution,
En 10 jours, en 10 jours.
aucun.
Oui, en si peu de
En
temps,
si peu
c'est
de temps,
incroyable.
où est Greta? Pourquoi Greta ne
Oui,
parle pas? Elle devrait
très
être
bonne
heureuse.
question. Où est-ce
Parce que
qu'elle est? Où
Greta
sont les Verts? Où
s'est
sont les
évanouie.
écolos?
Ils sont passés où, tous ces gens qui nous faisaient la morale? Moi, je comprends
Mais
pas.
Greta, elle a perdu.
Elle
Elle a
a
tout
perdu. Oui, elle a eu
perdu.
la grippe aussi. Elle a
Non,
perdu.
mais Greta, son problème, c'est que, en fait, bon, je ne vais pas regarder sa psychologie, mais Greta, elle était très bonne à engueuler les gens. Mais s'il n'y a plus rien, elle sait plus quoi faire.
Mais c'est ça.
Voilà. Donc, en fait, mais ça, c'est les ultra-verts. Mais le fond du vert reste, je suis convaincu. C'est-à-dire le message fondamental sur moins polluer, moins utiliser d'énergie, tout ça va rester. Ouais, c'est ancré, ça va pas disparaître. Ça, je
Alors,
suis convaincu.
comme on arrive à la fin de notre demi-heure qui est passionnante, on a pu parler 1 heure avec toi. Est-ce que, alors juste pour résumer, est-ce qu'on va vers un meilleur monde? Est-ce que c'est une chance ce qui nous est arrivé?
Moi, je pense que pour les jeunes, c'est génial parce qu'en fait, ils ont pour la première fois un monde table rase. Moi, j'ai pas eu ça dans ma vie. Moi, j'avais un vieux monde qui était tout le temps là. J'étais tout le temps dans le vieux monde. C'est pour ça que toi, tu me dis, voilà, il est provocant, etc. Mais moi, ce vieux monde dans lequel j'ai vécu toute ma vie, il m'a fait chier tout le temps. Eh bien, eux, ils ont cette chance de refaire un monde. C'est extraordinaire. La prochaine décennie, elle est extraordinaire parce qu'il est possible d'avoir une feuille blanche et de refaire les choses.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'avais appelée la décennie heureuse avant de savoir ce qui allait se passer, mais j'y crois.
Formidable.
Mais j'y crois.
Ils ont
C'est la
des
décennie
chances
heureuse.
formidables. Et c'est les jeunes qui vont porter ce nouveau monde. On verra comment ils le dessinent. Mais nous, on avait un vieux monde sur le dos,
C'est vrai.
tout le temps. C'était agaçant. Pas eux.
À dire que l'année passée, on était tous à se réjouir de 2020 parce que 2019 était une année de merde.
Non, mais je sais
Comme
pas, on
quoi.
n'arrive pas à
Non, moi
être.
j'ai appelé ça, alors retenez ça, j'appelle ça le reset. C'est une année
Bravo.
reset.
Parfait.
Et très très bon terme. Oui,
Voilà.
effectivement, il y a eu des mises à zéro dans pas mal de domaines. C'est vrai que c'est ce qu'on va retenir de
Très
cette
bien.
crise. Très bien.
Et on reset quoi? Son logiciel.
Ouais.
Oui, autant personnel qu'économique, la
Exactement.
société à tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Eh bien,
Xavier
écoute.
Comtesse, agitateur d'idées et passionnant débat. Merci à toi pour ce
Merci.
temps et ce partage.
J'adore.
C'était vraiment très très bien. D'ailleurs, ça devrait vous donner envie à vous toutes et à vous tous qui avez regardé ce live de le partager. Vous avez le droit, hein, c'est un peu fait pour ça. Vous avez le droit aussi de venir le revoir. Vous avez le droit aussi de commenter à nouveau. On se fera fort de répondre à vos interactions. On remercie encore une fois notre invité avec lequel on pourrait passer l'après-midi parce qu'effectivement, je pense qu'il y a matière. On va vous dire, Victoria, à demain, je crois. Hein. Demain. C'est reparti. Demain, c'est quoi? Jeudi. Il reste encore deux lives cette semaine. Donc, notez ouais, bien, demain, 15h.
Je crois qu'on va jamais s'arrêter.
Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous demain, 15h, même endroit. Et puis, portez-vous bien d'ici là.
Merci.